Radio Okapi. Journal présenté par Belinda Bosuma.
Le port en eau profonde de Banana, bientôt une réalité. 3 millions de dollars ont été déboursés par le gouvernement pour l'indemnisation des propriétaires des parcelles du site où sera construit cet édifice. Le vrai lancement de ce projet interviendra le 1er juillet prochain, a annoncé hier à Mwanda le ministre des Affaires foncières. La relique de Lumumba est à Kinshasa depuis hier après-midi. C'est la dernière étape du programme funéraire du premier ministre congolais. Le cercueil est exposé au Palais du Peuple jusque demain mercredi pour un recueillement et 3 jours de deuil national ont été décrétés pour ce faire par le gouvernement congolais. Et puis, l'invité de ce matin, Edgar Mateso, premier vice-président de la société civile du Nord Kivu, il parle de la situation sécuritaire et humanitaire dans cette province en proie à l'activisme des groupes armés. Madame, Messieurs, bonjour. Le ministre des Affaires foncières a lancé hier à Mwanda l'opération d'indemnisation aux propriétaires des parcelles du site où sera construit le port en eau profonde de Banana. Selon Aimé Molendo Sakombi, 3 millions de dollars ont été déboursés par le gouvernement pour l'indemnisation de ces personnes. Autre détail important à retenir, le ministre annonce que le 1er juillet prochain, le gouvernement remettra aux partenaires les titres de propriété au nom de la firme saoudienne DP World RDC, dans laquelle l'État détient 34% de part, ça sera à Kinshasa et cette étape constitue, selon lui, le vrai lancement de ce projet. Précision du ministre des Affaires foncières, Aimé Molendo Sakombi, au micro de Nana Plurish Mambou.
Je suis à Mwanda pour faire l'évaluation des indemnisations à payer aux personnes impactées par le vaste projet très cher au président de la République du port de Banana en partenariat avec nos amis de DP World basés à Dubaï. Il était question précisément que je puisse lancer les paiements et pendant, je crois, 3 jours, nous allons effectuer pour compte de 70 personnes des paiements qui vont arriver jusqu'à hauteur de 3 millions de dollars que le gouvernement de la République a déboursé pour ce faire. Donc ma mission est donc d'évaluer, de superviser et d'aller rendre compte au Conseil des ministres. Je profite aussi de l'occasion pour vous annoncer que les titres de propriété au nom de DP World RDC, où l'État a 34% de participation, seront remis le 1er juillet à Kinshasa, aux partenaires. Ce sera donc le véritable lancement de ce vaste chantier. Pas d'indemnisation, pas d'expropriation, pas de port.
Restons au Congo central où le nouveau gouvernement provincial a présenté hier son programme d'action au cours d'une plénière à l'Assemblée provinciale à Matadi. Ce programme comporte 5 axes et se décline en 13 piliers qui prend en compte presque tous les secteurs de la vie de la province en tenant compte de l'équilibre entre les 10 territoires, en croire Guy Bandundungidi. Son discours programme est porteur d'une vision de l'émergence du Congo central. Nana Plurish Mambou, reportage.
La sécurité est l'un des secteurs clés dans les programmes d'action défendus ce lundi par le gouverneur Guy Bandundungidi. Le nouveau chef de l'exécutif provincial veut en faire son cheval de bataille.
La province, chère à Kimbangu, est aujourd'hui confrontée à une crise sécuritaire récurrente et multiforme. Le gouvernement provincial veillera à l'augmentation des effectifs de la police nationale congolaise à travers toute la province et à l'acquisition en leur faveur des équipements et d'une logistique adaptée à l'accomplissement de leur mission.
L'agriculture constitue un levier de développement pour la province, susceptible d'éliminer la faim, d'après lui. La nouvelle équipe dirigeante de la province en est consciente et prévoit la relance de ce secteur.
La production agricole et animale, un des facteurs déterminants de la réduction de la pauvreté, accuse un déficit important à cause des contraintes d'ordre technique et économique. Nous appuyons sur le programme d'action du gouvernement provincial. Notre politique de relance de ce secteur consistera notamment à promouvoir durablement les filières agricoles, au premier rang desquelles les filières vivrières, afin d'améliorer les revenus des paysans et des autres opérateurs du secteur.
Ces programmes d'action qui traduisent l'émergence du Congo central au cas où sa mise en œuvre serait effective selon le gouverneur Bandou a été approuvé par les députés provinciaux. Le nouveau gouvernement a par conséquent été investi. Matadi, Nana plus riche Mambou, Radio Okapi.
Nord Kivu, le poste frontalier d'Ishasha est de plus en plus sollicité par les importateurs et exportateurs de la province. Constat des différents cadres de base du groupement des Binza, ces derniers estiment que cela serait consécutif entre autres à l'occupation depuis plus de deux semaines de la frontière de Bounagana par les rebelles du M23, coup de projecteur de la frontière d'Ishasha avec vous, Bernard Nyangi.
Située à l'extrême nord-est du groupement de Binza, chefferie de Boucha, la frontière d'Ishasha occupe la quatrième place en fréquentation après la grande barrière de Goma, Kasindi et Bounagana, selon les estimations du conseil du gouverneur du Nord Kivu en matière de finances. Mais depuis la fermeture de Bounagana sur instruction du gouverneur, consécutivement à l'occupation de cette cité frontalière par la rébellion du 23, Ishasha est de plus en plus sollicité par les opérateurs économiques. Cela, selon toujours maître David Kamoua, est aussi le résultat de la praticabilité de l'axe routier Ishasha-Nyamili-Makiwanja en réhabilitation par l'office des routes depuis plus de deux semaines. Il faut signaler que, selon les autochtones, Ishasha vient du mot Hunde signifiant « lieu de repos ». C'est aussi l'appellation de la rivière portant le même nom et qui est la frontière naturelle entre l'Ouganda et la RDC dans cette partie nord du groupement des Babingi. Le poste frontalier d'Ishasha donne donc accès au district ouest ougandais de Kanungu. Il est situé à environ 350 mètres de la rivière Ishasha et à 1,5 km du centre du village en territoire de Rutshuru. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Pendant ce temps, la situation sur la ligne de front entre les FARDC et les rebelles du M23 et leurs alliés est restée calme hier, mais imprévisible selon nos sources dans la zone. Chaque parti continue de consolider ses positions, notamment dans les groupements Jomba et Kisigari. Toutefois, des sources coutumières de ces deux groupements signalent des exactions commises par les rebelles du M23 à l'encontre de la population qui cherche à se ravitailler en vivre dans leurs champs. Ces chefs coutumiers lancent un SOS auprès du gouvernement congolais afin de voir comment garantir la sécurité des déplacés qui n'ont aucune assistance. Sachez aussi que c'est finalement hier que le sergent Mokili Kingombe Munyololo, le soldat FARDC tué le 17 juin dernier par la police rwandaise au niveau de la petite barrière à Goma, a été mis en terre au cimetière Chemin du Ciel. Une grande cérémonie d'hommage a été organisée en son honneur au stade Afia en présence de plusieurs personnalités dont le gouverneur du Nord Kivu et la famille du défunt. Au sud Kivu voisin, l'archevêque de Bukavu lance un appel à sortir du cycle des divisions et des violences de toutes sortes pour entrer dès maintenant dans un monde de communion et de fraternité, allusion faite à la situation de guerre que connaît actuellement la RDC dans sa partie orientale. Monseigneur François-Xavier Maroy s'est exprimé à travers sa lettre pastorale publiée le week-end dernier à Bukavu. À la communauté internationale, il demande plus d'équité et de justice envers la RDC et son peuple. Des détails avec Emmanuel Elamegi.
Dans ce message intitulé « Heureux les artisans de la paix », l'archevêque de Bukavu parle d'un vent de guerre et d'insécurité qui souffle à nouveau sur la partie est de notre pays. Toujours les mêmes acteurs, les mêmes motifs, avec les mêmes alliés. Curieusement, le soutien extérieur est toujours le même, avec le même schéma décrié par tous et les mêmes visées, dont la soustraction de cette partie du pays au contrôle de notre gouvernement central et peut-être son annexion pure et simple aux pays voisins, a-t-il dit. François-Xavier Maroy enchaîne et demande que l'État congolais revisite ses relations avec la communauté internationale, elle qui traite la RDC comme un pays de seconde zone dont la sécurité et le développement comptent peu. À la communauté internationale même, il demande plus d'équité et de justice envers la RDC et son peuple. Que cesse toute ambiguïté de la communauté internationale vis-à-vis de la souveraineté de la RDC qui n'est pas négociable, 62 ans de souveraineté nationale internationale après. Emmanuel Elamejo Akabedi, Bukavu Radio Kapi.
Je vous le disais en titre, c'est depuis hier à 15h30 locale que la relique de Patrice Emery Lumumba a atterri à Kinshasa pour ainsi ouvrir la dernière étape du programme funéraire du premier ministre congolais sur place à l'aéroport de Njili. Le président Félix-Antoine Tshisekedi, en présence de plusieurs officiels, s'est recueilli devant le cercueil contenant le reste de Lumumba. Il est exposé au Palais du Peuple jusqu'au mercredi pour un recueillement. Bien avant, le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a décrété un deuil national de 3 jours en mémoire de Lumumba à partir de Lubumbashi. Kibati après un cérémonial tenu au mausolée de Chilatembo, village où Lumumba fut assassiné en compagnie de Maurice Mpolo et Joseph Okito. Billy Van Lutumba, reportage.
En quittant Lubumbashi, tous les drapeaux sont retombés en berne ainsi jusqu'au 30 juin. À l'aéroport de Njili, se sont retrouvés l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba, quelques premiers ministres honoraires, speakers du Parlement des législatures passées et actuelles, ainsi que la majorité de tous les corps officiels actuels du pays. Depuis l'après-midi de lundi, le cercueil est exposé au Palais du Peuple pour recueillement jusqu'au mercredi 29 juin, jour où le cercueil passera quelques instants à la résidence familiale. Ce mardi 28 juin, des chefs d'État et des délégations étrangères sont attendus pour leur participation au Palais de la Nation en présence de tous les officiels à la cérémonie de dépôt des gerbes, des fleurs et des décorations à titre posthume de Maurice Mpolo et Joseph Okito, compagnons des feux Patrice Emery Lumumba le mercredi 29 juin. Un programme qui précède les hommages que lui rendront les premiers ministres honoraires à la primature. D'après le programme du protocole de la présidence, tout se clôture le 30 juin, jour de la commémoration de l'indépendance de la RDC, au monument Patrice Emery Lumumba, l'échangeur des Limété, lui est retenu pour l'inhumation. Bien avant l'inhumation, dans l'intimité familiale, il est prévu une procession par les premiers ministres honoraires, le témoignage du pionnier de l'indépendance Bruno Bukassa, ainsi que le discours du chef de l'État Félix Tshisekedi.
Kasaï Central, la plateforme La Voix des Jeunes plaide pour la création de l'ONU Jeunes sur base de la résolution 2250 pour la prise en compte des besoins de la jeunesse. Son coordonnateur l'a fait savoir dans une déclaration hier à Kananga. Selon Emmanuel Kabangu, cette résolution du Conseil de sécurité de l'ONU appelle entre autres les États membres à accroître la représentation des jeunes au sein de leurs institutions et dispositifs de prévention des conflits violents. C'est sur cette base qu'il devient nécessaire d'avoir un cadre fédérateur aux Nations Unies uniquement pour les jeunes, à l'instar de l'ONU, et c'est ce qu'a dit le coordonnateur de la plateforme La Voix des Jeunes, Emmanuel Kabangu, est au micro de François Kadima.
Et aujourd'hui, nous avons aussi la résolution 2250 qui nous pensons aussi avoir l'ONU jeune afin de prendre en compte le besoin de la jeunesse. Cette résolution 2250 donne comme pilier au total 5. Nous avons la participation des jeunes, nous avons le partenariat, la protection, la prévention, les désengagements et aussi la réinsertion. Nous lançons notre plaidoyer allant dans le sens de prise en compte de structures de jeunes, les structures membres qui se sont déjà engagées pour faire la promotion et aussi faire la protection des droits des jeunes. Nous sentons qu'il y a un problème de délaissement de la couche qu'on appelle la jeunesse. Nous avons la politique nationale de la jeunesse qui définit l'âge de la jeunesse, l'âge chronologique bien entendu.
C'est officiel. Les frais de test Covid à la frontière burundaise de Gatumba ont été revus à la baisse. Ils sont passés de 15 à 5 dollars américains pour une seule entrée au Burundi. La mesure est entrée en vigueur hier lundi, au même moment où la nouvelle société civile congolaise déclenchait un mouvement de protestation par rapport à l'ancien prix à Kavimvira notamment. Fiston Goma, reportage.
Tôt le matin, le membre de la nouvelle société civile congolaise empêchait les motos et les tricycles transportant de passagers de se rendre au poste frontière de Kavimvira. Aucun cas de violence ou de barrage routier n'a été signalé le long de la rue Okilomoni. La nouvelle société civile congolaise expliquait que cette protestation visait uniquement la réduction du tarif de 15 dollars imposé du côté Burundi pour les tests Covid. André Biadounia.
Nous sommes en train de lancer une alerte au niveau du gouvernement de la RDC pour qu'on puisse nous aider avec la diplomatie agissante, afin que les Burundis puissent revoir à la baisse le prix des tests Covid qui est à 15 dollars. On veut assez qu'on puisse les revoir à 5 dollars et pour une validité de 14 jours. Si ce n'est pas le cas, que chez nous aussi, on puisse imposer 15 dollars pour une seule sortie, pas pour 14 jours.
D'autres sources à la frontière signalent cependant que le processus avait déjà été entrepris depuis quelques mois entre les autorités des deux pays. Témoignage d'un habitant.
J'étais parti le matin à Bujumbura, je suis rentré. Cet après-midi, j'ai payé 5 dollars. Si tu arrives à la banque, donne les 15 dollars, on te rembourse les 10. Hein. Oui, là-bas, c'est la banque. Le processus était en cours, mais avec l'histoire de la société civile d'Ouvira, ça a donné aussi beaucoup d'impulsion pour que ça soit motivé de l'autre côté.
Les forces de l'ordre et de défense déployées depuis le matin sur les points chauds entre Kavimvira et Kilomoni vers la frontière sont encore visibles. D'Ouvira, Fiston Mamayaba, la radio Kapi.
Et puis, environ 129 000 cas de choléra, dont 4 500 décès ont été enregistrés en 2021 dans 12 pays de la région d'Afrique, y compris la RDC. C'est le chargé du bureau OMS en RDC, le docteur Amédée Prosper Djigwimde, qui l'a révélé renouvelée hier à Kinshasa à l'ouverture de l'atelier régional de renforcement des capacités pour la préparation au choléra. Outre la RDC, pays hôtes, le Bénin, le Burundi, le Congo-Brazzaville et la RCA prennent part aux travaux qui iront jusqu'au 1er juillet prochain. Le chargé du bureau OMS RDC explique au micro de Noremi Singakalala.
Le choléra est lié malheureusement à de mauvaises conditions d'hygiène et d'assainissement. La carence en eau potable, les conflits et les crises humanitaires qui provoquent les déplacements massifs des populations tout en limitant les capacités de surveillance et de réponse aux épidémies, voilà là quelques principaux moteurs de la persistance du choléra au niveau de la région africaine. C'est ainsi qu'en 2017, le groupe de travail mondial pour la lutte contre le choléra a publié la nouvelle stratégie mondiale de lutte contre le choléra, une stratégie qui recommande des actions prioritaires en vue d'atteindre les objectifs fixés et permet de réduire de 90% le nombre de décès dus au choléra et d'éliminer la transmission de la maladie dans au moins 20 pays d'ici 2030.
Actualité internationale.
Le chef de la Commission de l'Union africaine a dénoncé le traitement violent et dégradant de migrants africains le vendredi lors d'une tentative d'entrée massive dans l'enclave espagnole de Melilla. Il réclame ainsi une enquête sur ce drame qui sera examiné demain mercredi par le Conseil de sécurité de l'ONU. Pendant ce temps, le Maroc a décidé d'entamer des poursuites à l'encontre des migrants ayant tenté de franchir la frontière.
L'invité.
Nous recevons le premier vice-président de la société civile du Nord Kivu, Edgar Matesso, part de la situation sécuritaire et humanitaire dans cette province, touchée par l'activisme de plusieurs groupes armés. Il s'entretient avec Martial Papi Mukeba.
Edgar Matesso, bonjour.
Bonjour.
Comment vous évaluez la situation sécuritaire et humanitaire dans la province du Nord Kivu?
S'il faut commencer par l'aspect humanitaire, dans tous les territoires du Nord Kivu, dans toutes les villes, on rencontre des déplacés. Par exemple, à Rutshuru Centre, on compte plus de 7000 déplacés. À cela, il faut considérer qu'il y a d'autres déplacés à Goma, il y a d'autres déplacés à Butembo, il y a beaucoup de déplacés à Beni et dans plusieurs grandes agglomérations. Et être déplacé. Ça signifie que la menace sécuritaire continue à peser sur chaque territoire. S'il faut considérer par exemple le territoire de Beni où il y a encore l'activisme des ZADF et à côté de l'activisme de ces ZADF, les miliciens Maïmaï qui continuent à multiplier leurs positions, s'il faut considérer le territoire de Rutshuru, c'est d'abord les M23, mais aussi il y a des APCLS, les Nyantura, il y a les FDLR qui continuent à être là. Et à Masisi, il y a toujours des Maïmaï. Même chose à Walikale, comme pour dire que la paix est encore loin de revenir sur toute l'étendue de la province.
Vous venez de présenter un tableau inquiétant de la situation sécuritaire et humanitaire au Nord Kivu. Qu'est-ce qui est à la base de cette situation?
La situation du Nord Kivu a semblé être relativisée. Si vous considérez par exemple nos institutions, c'est rare de fois que la question sécuritaire traitée au Parlement, peut-être dans des commissions parce que là c'est pas public, mais à l'hémicycle, cette question n'a jamais été traitée au nom de ce qu'on appellerait les secrets d'État, les secrets de la défense. Et pourtant, la population voudrait comprendre comment les institutions prennent en charge cette question de la défense. Du côté du gouvernement, vous allez sentir que les budgets alloués à l'armée non seulement ne suffisent pas, mais parfois n'arrivent pas à destination et il n'y a pas un mécanisme de contrôle ou de vérification. Cette façon de relativiser la sécurité de la population et s'occuper d'autres choses comme priorité, essayer de voir quelle mobilisation on fait autour de la dent du premier ministre de notre pays. Cette mobilisation, si vous pouvez la faire également pour la pacification de l'Est, vous comprendrez que c'est toute la République qui se mobiliserait et on trouverait immédiatement des solutions bien appropriées. On n'écoute même pas les orientations de la population victime et la population, c'est elle qui en pâtit. On est tous victimes, malheureusement.
Et qu'est-ce qu'il faut pour restaurer la paix, la sécurité de la province du Nord Kivu?
Le représentant du secrétaire des Nations Unies, Madame Bint Keïta, avait demandé à ce que l'on utilise la force contre les M23. Nous pensons que de la même manière qu'il faut utiliser la force contre les M23, il faut utiliser cette même force contre les EDF, il faut utiliser la même force contre les miliciens qui refusent de se rendre, libérer l'espace. Il faut utiliser la force contre tous ceux qui déstabilisent. Mais la force en elle seule ne suffit pas. Il faut faire suivre de cette force les actions de justice. Et que donc, on devrait même définir une justice spéciale, une cour spéciale pour la guerre à l'Est. Comme ça, on laisse la cour militaire s'occuper des infractions ordinaires des militaires, mais cette cour spéciale pour l'Est de la RDC devrait s'occuper des infractions liées aux crimes de guerre, aux crimes pendant la période de la défense. On doit nettoyer toute l'armée. Depuis l'AFDEL, les RCD, les CNDP, les M23 et toutes les autres milices, rébellions, il y a eu des entrées au sein de l'armée, des gens qui n'ont pas été formés, des gens qui bénéficient des grades militaires alors qu'ils n'ont pas subi le parcours normal d'entrée dans l'armée. Et malheureusement, nombreux de ces groupes ont laissé derrière eux des poches de résistance qui continuent à nous déstabiliser. Voilà pourquoi la société civile du Nord Kivu a toujours exigé une mise à place générale au sein de l'armée. Il faut nommer d'autres qui peuvent être à mesure de prendre la situation à main.
Edgar Matesso, merci.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.